Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Je déclare ouvert le colloque sur l'internet littéraire francophone que Michel et moi avons préparé depuis presque 2 ans, comme le rappelait Madame Orgon hier soir. Et c'est un grand plaisir de pouvoir rencontrer physiquement, humainement, des personnes qui ont été longtemps des adresses électroniques, de vagues noms sur un coin de page. Et il y en a ici que je connais de cette façon depuis 10 ans ou plus, d'autres depuis 5 ans, d'autres depuis 4 ans, et puis d'autres que je ne connais pas peut-être, mais c'est un peu le même phénomène. Alors le fait de pouvoir se rencontrer humainement dans un lieu aussi chargé d'histoire est évidemment, à mon sens, plus symbolique que de se rencontrer dans une université parisienne, par exemple, parce que ça représente aussi un idéal de vie. Je ne sais pas si c'est un idéal pour tout le monde de vivre ici à la campagne, mais qui me paraît bien contradictoire, paradoxal, avec le monde de l'Internet. Alors notre... Oh, ben c'est impressionnant. Non. Pour ce qui est du fonctionnement du colloque, les participants qui le souhaitent et qui ne le savent pas encore ou qui le savent peuvent donc utiliser l'ordinateur, le mien ou le leur, avec la connexion Internet, avec le rétroprojecteur, enfin le vidéoprojecteur évidemment, et je fais l'enregistrement audio numérique avec un petit appareil comme ça, pas que je fasse trop de bruit, et Michel a mis en place l'enregistrement audio-vidéo numérique aussi, qui devrait pouvoir nous servir. Pour ce qui est du programme, en dehors du fonctionnement général de la maison qu'on a expliqué hier, nos exposés devraient durer à chaque fois à peu près 1 heure, questions comprises, de façon à ce que les neurones de chacun d'entre nous ne soient pas trop sollicités et qu'on ait le temps de faire une pause, là aussi dans un mode de vie assez tranquille et classique, loin des colloques d'intervention de 10 minutes en série et en parallèle qui sont un peu fatigants. Il n'y a pas de poster, il faut écouter, noter, et après on pourra peut-être réécouter, on verra si on peut négocier un accord de façon à pouvoir avoir une possibilité d'écoute. Je vais peut-être laisser Michel parler un peu avant sa propre intervention, ou bien la commencer directement. Les objectifs du colloque, si je les connaissais, je les dirais. Mais déjà, se rencontrer, c'est un bon objectif. Après, on verra ce qu'on fait ensemble. Ah non, il n'y a pas que ça. Non, non. Mais c'est vrai que les personnes qui sont ici, qui ont répondu à cet appel et qui ont été retenues pour y participer, qui représentent à peu près 1/5 des propositions que nous avons reçues, correspondent quand même à des personnes qui ont fait des projets sur un certain temps, avec une certaine qualité, et nous pouvons compter les uns sur les autres pour avoir une bonne réflexion commune. En tout cas, je l'espère. Éviter les banalités, comme je suis en train de dire. Et donc, je vais passer la parole à mon voisin.
Je vais me mettre là.
Je vais mettre là. Tu commences directement ? Tu parles d'autre chose ?
Oui. Non,
j'ai... Donc, il faut éviter de tripoter.
Je ne touche à rien. Bien, ça n'est pas facile de commencer dans la mesure où je vais me rencontrer un certain nombre d'obstacles. quelques malentendus à lever. Donc, mon exposé n'est pas supposé être une ouverture ou une introduction générale à notre colloque. Je vais aborder une partie du sujet. Je n'ai pas vocation ici à présenter l'ensemble de ce qui va être dit. Il y aura un bilan à la fin du colloque qui aura vocation à essayer de réunir. Patrick le disait tout à l'heure, je le suggérais hier soir, le colloque, son objet va se construire peu à peu à travers les trois termes que nous vous avons proposés. Moi, de mon côté, je vais intervenir plutôt sur les deux premiers termes, en fait, sur l'Internet littéraire. Hein, et en particulier, donc je le précise tout de suite, sur l'étude de la littérature assistée, aidée par les outils Internet. Hein, ce qui est déjà une partie de nos sujets, puisque d'autres, beaucoup plus compétents que moi sur ce sujet, vont parler de la création littéraire qui existe aujourd'hui sur l'Internet. Moi, je vais m'en tenir à cette partie qui est plutôt l'étude de la littérature traditionnelle, l'adjectif reste à préciser, assistée par l'Internet. Je représente aussi ici, d'une certaine manière, le centre Hubert de Falaise. On vous en a parlé rapidement hier soir. C'est un centre de recherche de l'Université Paris 3 qui a été créé par Henri Béard et que je dirige actuellement et dont font partie plusieurs d'entre nous. Hubert de Falaise, un mot sur le nom d'Hubert de Falaise, c'est le nom d'un abbé du XVIIe siècle qui a édité une concordance de la Bible. Alors, à l'époque, je vous laisse imaginer ce que représentait de faire une concordance complète de la Bible, c'est-à-dire qu'il a fait travailler 200 ou 300 de ses moines qui ont travaillé comme ça pendant plusieurs années pour prendre chaque mot de la Bible, les mettre sur une fiche et puis ensuite ramasser toutes ces fiches, les éditer. Donc on a pris ce nom un peu en hommage à tous ceux qui avant nous, avant l'arrivée de l'informatique, ont fait ce genre de travail sur le lexique. C'est aussi pour signaler que nous nous inscrivons dans une certaine tradition et que ce que nous faisons aujourd'hui, au fond, n'est qu'une continuation avec des moyens plus puissants que ce qui a été fait à cette époque-là. L'objectif d'Hubert de Falaise depuis le départ, c'est de diffuser les méthodes informatiques parmi les littéraires, les chercheurs en littérature. Ça n'est pas une petite affaire, mais c'est ce qu'on va essayer d'évaluer, les choses avancent. Et en particulier, donc l'Internet est arrivé, alors j'estime à peu près à 95, l'année où l'Internet a vraiment débouché dans notre champ disciplinaire. C'est-à-dire qu'en 95, on a commencé à voir les chercheurs s'équiper largement d'adresses de courrier électronique, et puis surtout chaque centre de recherche se préoccupait d'avoir un site web. Je vous donne ce critère, j'ai essayé d'un peu de trouver des critères historiques. En 1995, Alain Vuillemin, que certains d'entre vous connaissent, qui est un spécialiste de informatique et littérature, qui avait publié en 92 un livre intitulé « Littérature et informatique », en 95, publié un article dans la revue de l'EPI, qui s'intitulait « Les espaces électroniques littéraires francophones » et qui, pour la première fois, citait l'Internet. 95. Alors qu'en 92, le même auteur, dans la même revue, avait publié un article qui s'intitulait « L'informatique dans les humanités » et qui ne mentionnait pas du tout l'Internet. Par ailleurs, dans cette même revue, heureusement on dispose de ces archives entièrement numérisées, le terme Internet n'est apparu qu'en 94. Donc pour l'ensemble des disciplines. Et donc c'est pour ça qu'on peut situer à peu près à 10 ans, plus ce 10e anniversaire cadre avec notre colloque, et je crois que c'est le moment de faire un bilan ou de commencer un bilan de ce qui a pu se passer dans ce domaine, dans le cadre restreint que je citais tout à l'heure, c'est-à-dire que je ne vais me préoccuper que de l'étude de la littérature traditionnelle à l'aide de l'Internet. Alors tout d'abord, l'Internet a représenté et fourni encore aujourd'hui aux chercheurs un immense ensemble documentaire, doté de dispositifs de recherche performants. Alors, Il existait bien sûr des bases de données avant l'Internet. Certains sont trop jeunes pour les avoir utilisées, mais il ne faut pas imaginer qu'avec l'Internet, on a enfin pu accéder à des bases de données. Depuis les années 80, Hubert de Falaise se sert d'un grand nombre de bases bibliographiques ou textuelles qui étaient fournies sous forme de disquettes, puis de CD-ROM, ou de mise en ligne avec des moyens qu'on a un peu oubliés aujourd'hui, comme Questel ou le Minitel, évidemment. Hein, on a longtemps utilisé Frantext à travers le Minitel. Mais le web a apporté ici une intégration, une facilité d'utilisation qui ont permis un saut qualitatif dans l'accès à la documentation. Je vais prendre un exemple. J'ai choisi de prendre mes exemples dans l'activité d'Hubert de Falaise, d'abord pour ne pas déflorer certains des exposés qui vont être faits, même si je ne méconnais pas les autres travaux qui se passent sur l'espace de l'Internet. Et puis ça permettra également de présenter un peu les activités d'Hubert de Falaise à travers ces exemples. Donc Hubert de Falaise, depuis 1991, publie chaque année un ouvrage chez Nisée, collection Cap à Greg, sur un des auteurs au programme de l'agrégation. Ce livre est alimenté à partir de l'informatique, au sens le plus large. Lexicométrie, base de données bibliographiques, base de données d'histoire littéraire. Et ces outils donc sont imprimés. Là aussi, c'est un paradoxe sur lequel on va revenir assez souvent, même s'ils sont faits à partir de l'informatique. Jusqu'en 2000, à peu près, nous demandions à un bibliothécaire de fabriquer notre bibliographie. C'est-à-dire qu'un bibliothécaire de Paris 3 interrogeait les bases de données pour nous, nous fournissait les données brutes et puis nous les mettions en forme, nous les trions, etc. À partir de 2000 et donc de l'arrivée de ces bases de données sur l'Internet, c'est nous-mêmes qui faisons ce travail. Et ça a évidemment des côtés positifs, même si ce bibliothécaire faisait très bien son travail, mais lorsque c'est le chercheur lui-même qui peut faire cette opération, ça nous permet par exemple de choisir les sources de manière beaucoup plus précise. Ça nous permet également, en interaction, à partir des sorties de telle ou telle base de données bibliographique, de préciser les mots-clés par lesquels nous interrogeons la base, alors qu'autrefois c'était beaucoup plus difficile puisque nous donnions le travail à faire à quelqu'un qui est un spécialiste de documentation mais qui n'était pas un spécialiste de notre domaine. Et donc là aussi on a un certain nombre d'avancées de ce type-là. Je prendrai également comme exemple le cas de BN Opal Plus, le grand catalogue de la Bibliothèque nationale de France, qui a apporté dans nos disciplines quelque chose que je caractériserais comme une révolution dans nos pratiques bibliographiques. Là aussi, je prendrai deux exemples personnels. Alors, je vais peut-être essayer d'utiliser... Comment fait-on pour reprendre... Ah oui, on bascule comme ça. Ah, je peux utiliser quand même Internet Explorer. Voilà, donc je prendrai deux exemples personnels là aussi qui permettront de préciser les choses et ce que l'on peut trouver de neuf à travers ces bases de données accessibles par Internet. C'est un travail que j'ai fait sur un personnage peu connu qui est le parrain de Marcel Proust, Eugène Mutiot. Donc je vais me connecter sur le... Ah, mais tu as un clavier...
Dis-moi l'adresse que tu veux.
Oui, c'est le site de la BNF.
Un clavier japonais?
Oui, japonais, QWERTY, enfin... Exotique. Voilà. Et puis, je vais te demander alors, peut-être de faire les manipulations. C'est BN Opal Plus qui est là. Voilà, oui, non, mais je pense qu'on va voir les sorties. Enfin, beaucoup d'entre vous connaissent ce catalogue. Je voudrais vous donner des exemples précis d'utilisation. Et surtout, ce que je m'attacherai à montrer, c'est que on peut aller au-delà de certaines interrogations qui étaient possibles autrefois. Alors, ce personnage donc s'appelle Eugène Mutiot. La première interrogation qui vient à l'esprit, c'est de chercher s'il a écrit des livres. Donc, si on cherche... non, il faut mettre Mutiot, virgule Eugène.
C'est ça, non ?
Alors, ça, c'est l'interrogation classique. AUX. Ça, c'est l'interrogation classique du catalogue, c'est-à-dire qu'on interroge par le nom d'auteur. On aurait pu faire cette interrogation avec le catalogue papier, hein, puisqu'il était déjà classé par ordre alphabétique. Voilà, donc lorsqu'on fait cette interrogation, on s'aperçoit que le personnage n'a rien écrit, il y a un homonyme qui est Alfred Mutio. En revanche, je vais pouvoir faire une interrogation, donc en revenant à l'interrogation simple ici, que je ne pouvais pas faire autrefois, qui est une interrogation par le titre, et qui va me permettre de chercher le nom de Mutio, par exemple, donc en mettant juste son nom, dans les titres d'ouvrage. Ce qui m'a permis... Voilà, de découvrir un certain nombre d'ouvrages. Ah, alors, est-ce qu'on les a... Non, là, on a du bruit, comme on dit. Tu peux revenir en arrière? Ah oui, il faut mettre « contient les mots ».
Ah, commence pas.
Oui, voilà, « contient les mots hein, », sinon... Voilà, ce qui me permet d'obtenir, voyez, un certain nombre d'ouvrages. Alors, ce personnage, je l'ai découvert d'ailleurs de cette manière-là, était un collectionneur d'art japonais. Et on va trouver ici deux catalogues de vente qui mentionnent, c'est sa succession, hein, donc on mentionne son nom et on peut ainsi savoir, en consultant les catalogues, ce qu'il avait dans ses collections. Et puis on va trouver cet ouvrage qui est ici, sur lequel, si tu veux bien cliquer, Eugène Mutio par Raymond Queclin, qui est un éloge funèbre hein, de Mutio et qui est la source principale pour la connaissance de ce personnage et que je n'aurais pas pu trouver d'une autre manière. Le catalogue ici apporte vraiment des outils de recherche qui sont une nouveauté et on peut supposer que dans les années à venir on va trouver comme ça un certain nombre de peut-être d'inédits ou d'informations que l'on n'aurait pas pu trouver d'une autre manière. Autre exemple personnel, j'ai alimenté au cours de l'année 2004 une rubrique sur le site d'Hubert Falaise qui s'appelait « Un centenaire par jour ». Certains d'entre vous ont peut-être eu l'occasion de tomber dessus, ça a été très vite référencé par Google. Il s'agissait donc pour chaque jour de l'année 2004 de donner, d'exposer un anniversaire de l'année 1904. Et il fallait donc pour alimenter que je trouve tout ce qui avait pu se passer, par exemple le 22 avril 1904. Alors de ce point de vue-là, on peut peut-être le regarder rapidement, en cliquant ici sur « Simple » toujours. Voilà, toujours le titre, toujours contient les mots. Voilà, et on peut mettre ici entre guillemets la date, par exemple 22 avril 1904. Entre guillemets. Alors, je vous donne l'exemple de cette manipulation parce que ça n'est pas forcément celle auquel on pense lorsque l'on utilise un catalogue comme celui-là. Mais on peut faire des recherches de ce genre-là. Il faudrait fermer les guillemets. Voilà.
Sur Google, on n'a pas besoin.
Donc là, on va trouver tous les titres. Dans lesquels figure l'expression 22 avril 1904 et vous voyez qu'on va trouver par exemple cette date ici là la représentation de la chauve-souris sur un livret de Meillac et Halévy aux variétés le 22 avril 1904. Voilà le genre de recherche qui était tout à fait inimaginable autrefois avec les catalogues, bien sûr le catalogue papier, mais même le premier catalogue électronique qui ne permettait pas ce genre de recherche. Ce catalogue s'améliore sans arrêt, on peut maintenant faire des recherches en restreignant les dates, ce qu'on ne pouvait pas faire au départ, et il y a donc là la possibilité de faire des recherches tout à fait intéressantes, par exemple par éditeur. Quelqu'un qui travaillerait sur Lautréamont serait capable maintenant de savoir ce qu'ont publié tous les éditeurs à Montevideo entre telle et telle année, et donc éventuellement de savoir ce qu'aurait pu... lire Ducasse à ce moment-là. Donc il y a là des recherches tout à fait nouvelles qui sont permises et l'Internet a mis tout ça à disposition très rapidement de chaque chercheur sans passer par des opérateurs spécialisés. Alors le web évidemment constitue une autre base de données et il ne faut pas la dédaigner. Alors c'est une base de données qui doit être employée avec beaucoup de précautions évidemment, hein, chacun d'entre vous en est bien conscient, mais là aussi on peut prendre quelques exemples de recherches qui ont pu être pratiquées avec Google tout simplement, qui ramènent des profondeurs de la toile beaucoup de boue mais aussi quelques pépites. Et là aussi je vais prendre un exemple, nous travaillons cette année dans la collection Kappa Greg sur Claudel, sur Tête d'Or, qui est au programme de l'agrégation. On trouve dans Tête d'Or ces versets assez énigmatiques. que je vous lis, la figure de la cueilleuse de fleurs qui chante s'efface tellement dans l'épais crépuscule qu'on ne voit plus que ses yeux et sa bouche qui paraît violette. Alors la cueilleuse de fleurs, c'est écrit avec des tirets, attire l'attention, évidemment, on peut se demander qui est cette cueilleuse de fleurs. Alors on utilise pour ça toutes les bases de données qu'on connaît, par exemple Joconde, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cette base, c'est la base des musées nationaux, qui recense toutes les œuvres indexées et conservées dans les musées nationaux, et qui permet en particulier une interrogation très intéressante par sujet. C'est-à-dire que si vous cherchez une représentation de Marie-Madeleine, d'une colombe ou d'un poignard dans un tableau du XVIIe siècle, vous pouvez taper tous ces mots-clés et on vous le fournira éventuellement. Cette requête n'a rien donné. Avec Google, alors c'est inutile de faire, je pense que tout le monde sait comment les choses se passent de ce côté-là. J'ai trouvé, alors là aussi en triant pas mal, c'est pas la première mention, tapant cueilleuse de fleurs entre guillemets, la mention d'une vente dans laquelle figurait un tableau du peintre Pierre Prince, 1838-1913, intitulé « La cueilleuse de fleurs ». Hypothèse, parce que j'ai pas pu aller plus loin, en particulier on ne m'a pas fourni la reproduction. Ah, donc voilà une hypothèse de travail, du type de celle sur laquelle on travaille très souvent dans les études littéraires. Est-ce que cette cueilleuse de fleurs avec des tirets que cite Claudel n'est pas le tableau qui, d'après les dates du peintre, a pu être produit à peu près à ce moment-là? Donc me voilà parti sur une hypothèse qui m'a été fournie simplement par le moteur de recherche. Et il est très fréquent que dans ce type de recherche, on ait comme ça des amorces d'hypothèses qui soient fournies par le moteur de recherche. En revanche, vous le savez, le moteur de recherche est de très peu d'utilité si vous tapez des mots très, très, très vastes. Si je tape « verset claudélien » par exemple, je vais avoir tout et n'importe quoi et là la recherche va être très difficile. Mais je voulais quand même signaler au passage et saluer au passage l'utilité d'un moteur de recherche tout venant qui permet de faire ce type de recherche. Le web fonctionne dans ces cas-là comme une base de données plein texte, mais qui est bien sûr bien moins structurée que des bases comme Frantext ou Gallica. Sur le sujet précis que je citais, la recherche a pu être intéressante, mais il ne faut surtout pas oublier ces bases de données, ces grandes bases de données qui sont aujourd'hui accessibles à travers le web. Je pense à Frantext en particulier. Nous les utilisions autrefois à travers des interfaces assez peu commodes. Je rappelle l'existence du CD-ROM Discotext, par exemple, que beaucoup d'entre nous ont utilisé, Transpac, du Minitel également. Et aujourd'hui, l'avantage, évidemment, c'est une utilisation beaucoup plus simple et à travers des interfaces qui ont été revues. Je dirais un mot sur Gallica, dont nous servons beaucoup. Gallica a été assez souvent décrié en raison des choix qui lui ont fait privilégier le mode image. Alors évidemment, c'est souvent assez frustrant, mais tout de même, n'oublions pas qu'il y a là quand même un trésor pour des chercheurs en lettres. Je vous avouerai le plaisir que j'ai tous les mois à feuilleter les dernières numérisations. Je ne sais pas si vous avez vu ça sur le site. On peut peut-être regarder ça. Enfin bon, mais vous avez peut-être feuilleté ça. Sur le site, on nous donne toutes les numérisations du mois dernier. Et on a là chaque mois 200 ou 300 nouveaux ouvrages qui viennent d'arriver. Et j'ai toujours l'impression d'ouvrir une malle au trésor dans un grenier et de fouiller là-dedans tout ce qui vient d'être c'est gallica.bnf.fr.
Ah, BNF.
Il n'y a pas de www.
Voilà. Je l'ai en lien.
C'est pour ça. Alors, certes, le mode image introduit des limites, mais je voudrais quand même rappeler la présence de quelques ouvrages en mode texte, même s'ils ne sont pas toujours d'excellente qualité. Voilà, c'est la liste des derniers documents numérisés qui est ici.
Ici en bleu.
Voilà, et vous avez là, donc par exemple, tout ce qui a été numérisé en juillet. Voilà, et on va voir défiler.
271.
Il y en avait 271 là, et on va voir défiler. Bon, je pique un petit peu au hasard.
Histoire.
Voilà, Histoire émouvante de Charles Barbara. et puis des collections de revues qui commencent à être dépouillées de manière très systématique. J'espère que malgré la défection de Google, la BNF va quand même continuer son programme de numérisation des quotidiens français. Voilà, alors on voit chacun évidemment a ses propres intérêts. Voilà un roman de Raymond Roussel là, qui vient d'entrer.
Il y a l'avenir de la science.
Voilà. L'artiste aussi, journal très important pour l'histoire littéraire. Donc tout ça est, comme vous le savez, consultable directement en mode image. Alors, pour compenser ce mode image, bien on a des sommaires qui ont été numérisés en mode texte et qui nous permettent quand même de faire quelques recherches plein texte. Malheureusement, depuis quelques mois, la BNF ne numérise plus en mode texte les sommaires et se contente de nous renvoyer sur la page de la table des matières en mode image. Ce qui est un peu gênant, mais bon, on a quand même là près de 70 000 documents disponibles de cette manière. Et là aussi, quel confort pour le chercheur en lettres, c'est-à-dire que de n'importe où, à n'importe quel moment, on peut accéder à des ouvrages. La BNF a eu la très bonne idée de numériser en priorité des ouvrages rares, peu disponibles, mais il y a aussi... Récemment, j'ai téléchargé l'ensemble de la recherche du temps perdu dans l'édition de 49, qui est d'excellente qualité, et ça permet à tout moment d'avoir toute cette bibliothèque sous la main, ce qui est quand même vraiment très, très commode. Je mentionne aussi, certains d'entre vous le savent déjà, qu'il est possible de numériser soi-même en mode texte tous ces documents. La qualité est souvent suffisante pour récupérer, puisqu'on peut tout télécharger, récupérer en mode TIFF ou PDF ces documents, les passer dans son propre logiciel, Omnipage par exemple, et récupérer du mode texte de très bonne qualité. Un exemple que j'ai utilisé, vous voyez, on a ici une revue. Il est tout à fait possible, lorsqu'on a une recherche rapide à faire dans une revue, tous les chercheurs en lettres ont expérimenté ces heures passées en bibliothèque à chercher juste la mention d'un nom ou d'un mot dans une revue. Il est possible de numériser ça sans correction particulière. Et puis, si on a de la chance, eh bien la numérisation a été suffisante pour retrouver justement le mot, la mention que l'on cherche dans ces collections de revues. Donc là, on a aussi des ressources vraiment tout à fait intéressantes. Frontex, je passe un peu rapidement parce que j'estime que le web a apporté une grande facilité d'utilisation, mais pas de véritable avancée en termes de recherche. Disons que l'on a actuellement sur Frontex ce que l'on avait autrefois en passant par le Minitel, par des interfaces comme celle qu'Étienne Brunet avait concoctée avec le logiciel VIF. Et qui permettait d'accéder de manière un peu plus commode à Frontex. Alors Frontex s'est un peu étendu, a corrigé certains de ses textes, mais on n'a pas quelque chose de tout à fait nouveau. En revanche, je voudrais citer quelques bases de données auxquelles nous avons accédé depuis 10 ans, parce que c'est l'Internet qui les a apportées sur nos tables de travail. Alors malheureusement, et on atteint la dimension francophone de notre problématique, ce sont souvent des outils en langue anglaise. Il faut bien le dire, le projet Gutenberg par exemple, beaucoup d'entre vous connaissent ça, je le mentionne pour sa grande taille surtout, mais on y trouve des œuvres en langue anglaise essentiellement, même s'il y a quelques œuvres en français, c'est vraiment très peu de choses. L'équivalent français serait le projet de l'Association des bibliophiles universels, qui reste une source de très bonne qualité pour le texte, et qui est une bibliothèque tout à fait honorable vu les conditions dans lesquelles ça a été constitué. Je citerai aussi, c'est quelque chose de très utile, le Perseus. Beaucoup d'entre vous aussi connaissent ce site. Perseus, on peut peut-être y faire un petit tour. Tu peux chercher par Google l'adresse, je crois que c'est le plus simple. Par MSN, en tapant Perseus, tu tombes tout de suite. Perseus est une très grosse base de données qui recense la totalité des littératures antiques latines et grecques. Donc on a accès à la totalité, voilà, c'est ici. Et ils ont un moteur qui est tellement intéressant qu'ils y rajoutent petit à petit, on y trouve maintenant Shakespeare, Marlowe, vous le voyez ici, et ça permet de revenir ou de continuer, pour certains qui y sont encore, à ces études de latin et de grec avec beaucoup de plaisir, parce qu'on a des dispositifs de ce type-là qui permettent donc de lire La traduction, alors elle est anglaise là encore évidemment, la traduction d'un texte et de circuler directement avec la version d'origine. Vous voyez, on a ici là tous les textes qui sont numérisés. Alors si vous voulez travailler sur Cicéron par exemple, alors c'est un très bel outil pour chercher des citations. Dans les textes du 19e, là, chez Claudel par exemple, très récemment, et il y a beaucoup de citations latines qui ne sont souvent pas référencées, on est sûr de trouver à peu près tout ce qui concerne la littérature. Donc voilà le texte, vous voyez comment il se présente. Chacun des mots est un lien hypertexte, ce qui permet donc de consulter des dictionnaires. En anglais, là aussi, mais on a le dictionnaire, et beaucoup mieux fait que notre vieux Gaffio, puisqu'on a toutes les déclinaisons automatiquement, mais vous pouvez très facilement basculer à la traduction anglaise de cette manière-là. Alors malheureusement, un de nos collègues de Paris 7 qui a disparu, hélas, Charpin, avait commencé à travailler à la partie française de Perseus, mais malheureusement ce projet a été arrêté par sa disparition et on dispose seulement des traductions. Et beaucoup d'autres choses, on peut très facilement glisser sur des encyclopédies du monde ancien, sur des collections de vases antiques avec des liens entre les sujets des vases et puis les textes homériques. Enfin, c'est vraiment une mine pour quelqu'un qui travaille sur les textes anciens. Je ne vais pas citer tout le monde, hein, et puis l'objet de notre semaine sera de découvrir beaucoup d'autres sites, mais la bibliothèque de Lisieux aussi nous apporte chaque mois des choses vraiment très, très intéressantes, même si là aussi c'est beaucoup plus centré. On a un fonds normand à la bibliothèque de Lisieux qui est très intéressant, avec des textes rares, là aussi, qu'on ne trouve pas d'une autre manière. Le site de Georges Perroux, le site Athéna aussi fournit des textes, mais également un très bel annuaire, des textes numérisés disponibles sur le web. J'ai l'impression d'ailleurs que Perroux est en train de s'épuiser un peu à essayer de faire ce catalogue général, puisque on vient de le voir, Gallica en apporte une foison tous les mois. La bibliothèque de Lisieux également s'enrichit très rapidement, donc je ne sais pas s'il existe à l'heure actuelle un catalogue complet de tout ce que l'on peut trouver en littérature de langue française sur le web. Alors il faudrait sans doute dans ce contexte parler aussi des projets liés à Google, mais vous le savez, tout ça évolue très vite, puisque on a appris hier que Google renonçait à son projet. J'espère que ça ne va pas faire renoncer Jeannet et les Européens à leur propre projet, et qu'au contraire, on va être en avance. Alors c'est difficile d'en dire grand-chose, puisque malgré ce qu'on a pu en lire dans la presse, on ne sait pas grand chose au fond de ce qui va se passer. Je crois que notre communauté, enfin tous ceux qui travaillent sur la littérature et l'internet, ont intérêt à manifester leur intérêt surtout pour ces questions, et à dire au pouvoir public, à tous ceux qui peuvent mettre des fonds dans cette aventure, que nous attendons avec beaucoup d'intérêt, et nous sommes même prêts à participer au choix des textes, aux interfaces, hein, parce que il y a parfois des insatisfactions par rapport à ce qui nous est proposé. Mais le web est également pour nous un espace de publication, hein, pas seulement une immense base de données que j'ai essayé de montrer à grands traits, c'est également un espace de publication. Le fonctionnement même du réseau et la philosophie qui préside à son développement depuis que les militaires états-uniens l'ont livré aux universitaires nous interdit de rester de purs consommateurs d'une information que d'autres auraient mise en ligne. C'est vrai d'abord pour les textes littéraires. On trouve, je viens de le montrer, un grand nombre de textes littéraires, mais l'objectif des chercheurs en lettres et des équipes de recherche en littérature est également de publier des textes. Le web offre de grandes possibilités de ce côté-là, vous le savez. Un de mes étudiants, par exemple, dans le cadre de son mémoire de maîtrise, vient de mettre en ligne un roman du XVIIIe siècle, Les lutins du château de Kernosy, de Madame de Murat, dont la dernière édition sur papier remontait à 1788. Le texte donc n'était plus disponible, il a pu quasiment gratuitement le mettre en ligne, et le texte est maintenant disponible au format PDF, HTML, et on peut lire ce texte. Alors ce texte était déjà disponible sur Gallica dans une version facsimilée, mais il en a fait une véritable édition scientifique avec un relevé de variantes, un établissement du texte, une modernisation de l'orthographe, etc. C'est-à-dire que un travail comme celui-ci, qui il y a 10 ans serait resté dans un mémoire de maîtrise sur papier, qui aurait été consulté peut-être par quelqu'un qui aurait eu la chance de retrouver la trace de ce mémoire, eh bien cette édition va être disponible sur le web et peut être utilisée par tout spécialiste de ce type de littérature. Le Centre Hubert de Falaise, depuis longtemps, depuis 1997, a publié également des textes en ligne. Nous avons en particulier sur notre site une édition des œuvres complètes de Lautréamont et une édition des complaintes de Laforgue. Alors notre souci là n'était pas de publier des œuvres mal éditées, mais de proposer des interfaces d'interrogation offrant des outils qu'on ne trouve pas sur le papier. On peut peut-être, Patrick, montrer l'édition de Lautréamont. Je ne sais pas si le mieux c'est de taper Falaise. Alors Piersens également, oui, a publié les textes. Justement, on a travaillé ensemble à ce moment-là. Il a publié, lui, les textes bruts. Et voilà, c'est là-dedans. Hein. Donc, dans l'édition des œuvres, on peut regarder ici. Oui, choisissez un texte ici. Voilà. Alors le pop-up n'a pas été affiché, mais il affiche l'actualité de Lautréamont, c'est-à-dire lorsqu'il y a une représentation théâtrale, lorsqu'il y a un colloque, il est affiché. Donc vous voyez ce texte qui paraît être un texte brut, en réalité est un hypertexte. On peut aller dessus. Ah, pardon, oui. Voilà. C'est-à-dire que si vous cliquez sur n'importe lequel des mots, vous accédez donc au contexte, et parfois, dans certains cas, des notices de type notes de bas de page. On peut, en accédant au sommaire ici ou par là, on peut accéder à un index complet de l'œuvre qui permet, si tu peux chercher l'expression pigargue, le mot pigargue, voilà, parce que le pigargue roux, voilà. Alors lorsqu'on tombe sur le pigargue roux dans une édition papier, ben, on se précipite vers les notes à la fin du livre ou en bas de page quand on a de la chance. Et là on a voulu donc fournir avec un Y. Oh. Ça doit être le dernier mot de la liste. Voilà, ici le pigargue donc est éclairé du contexte, mais également d'un certain nombre d'indications d'une photo de pigargue roux. En espérant que ça apporte quelque chose à la lecture. Donc notre souci a surtout été de justifier une édition en ligne par les outils supplémentaires qu'elle pouvait apporter. Ce type d'édition, il faut le redire avec force, n'est pas un concurrent de l'édition papier. C'est-à-dire que personne ne va lire Les Chants de Maldoror entièrement sur écran de cette manière, hein, surtout pour une première lecture. C'est un outil d'étude. C'est un outil qui permet d'apporter des outils, une panoplie d'outils que l'on n'a pas sur les supports habituels. Quand Patrick Rébollard, par exemple, et Pascal Mougin ont publié sur le site Hubert de Falaise l'index des œuvres de Claude Simon, c'est pour envoyer à des livres papier, évidemment, il n'était pas question de publier les œuvres en même temps, et parce qu'aucun éditeur ne serait lancé sans doute dans une telle aventure. Hein, donc là encore, il n'y a pas de concurrence. Quand Hubert de Falaise publie chaque année, je vous le disais, un volume papier chénisé de la collection Kappa Greg, nous publions également des documents complémentaires qui peuvent être des bonnes pages du livre, mais également des documents qui n'ont pas trouvé leur place dans le livre papier. Ce qui fait que le lecteur, tout naturellement, ça lui est signalé dans le livre papier, va aller sur le site pour trouver d'autres documents qu'il n'a pas pu trouver, iconographie par exemple, qu'il n'a pas pu trouver dans le livre. C'est d'ailleurs ce que font certaines revues comme Histoire littéraire, qui publie systématiquement quelques bonnes pages, quelques articles ou des articles anciens de numéros épuisés. Là, il y a une complémentarité toute naturelle qui s'est trouvée. Pas de concurrence également lorsqu'il s'agit de publier des documents qui n'ont pas leur place sur le papier, comme les banques de données. Alors notre expérience dans le domaine Hubert de Falaise, c'est celui de la banque de données d'histoire littéraire, qui est une banque de données qui est développée depuis 20 ans maintenant. C'est Henri Béard qui avait lancé en 85 cette entreprise. Et cette banque de données, parce qu'elle a 20 ans, a subi toutes sortes d'avatars quant à son mode de diffusion. C'est assez amusant d'ailleurs de voir l'évolution, c'est-à-dire que quand elle a été lancée, un de ses premiers commanditaires qui était l'éditeur Hachette avait en tête une publication papier, en se disant à partir d'une base de données on peut fabriquer une sorte de memento d'histoire littéraire, un peu d'ailleurs comme Frantexte a été constitué pour fabriquer un dictionnaire papier au départ. Et puis la base de données a pris peu à peu son indépendance. Elle a été ensuite diffusée sur des disquettes, puis il a été question de la diffuser sur un CD-ROM, et enfin tout naturellement au milieu des années 90 elle a été mise en ligne. Elle l'est actuellement, voilà, bon, on peut aller voir, c'est celle-là qui sera peut-être le plus simple. Voilà, donc elle est accessible par le site Hubert de Falaise, et elle permet voilà. Et elle permet, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont utilisé, donc de faire des recherches. On peut peut-être, oui, les noms, on va les trouver facilement, mais par exemple par catégorie professionnelle, je ne sais pas si on a. Bon, ça n'a pas l'air de fonctionner, mais vivant dans une période, par exemple, hein, si on cherche les écrivains qui vivent entre. Non, on n'a pas les professions là, apparemment. On cherche les écrivains, par exemple, qui vivaient entre. Ici, là, voilà. Hein. Entre 1720 et 1725, mettons. Ah, bon, plantage. Ça, c'est l'effet démonstration qui est à peu près. Donc on peut faire ce genre de requêtes. Alors voilà le genre d'outils, une base de données d'histoire littéraire, dont évidemment la publication en ligne s'impose très rapidement, puisque sur papier on peut, Patrick en parlera un peu, de manière un peu plus approfondie, on peut publier des résultats de l'interrogation de la banque, mais il est très difficile de l'utiliser autrement. Oui, voilà, vous avez une version un peu plus ancienne, mais qui au fond... fonctionne mieux dans ce cas-là. Autre exemple de publication en ligne qui a changé notre vie de chercheur, c'est la publication, la mise en ligne des colloques. Alors, on est en plein dans le sujet avec les questions d'enregistrement de notre colloque d'aujourd'hui. L'expérience qu'en a eu Hubert de Falaise, c'est à travers les journées d'agrégation en ligne. Vous avez peut-être eu aussi l'occasion de rencontrer ça au détour d'une navigation. Les journées d'agrégation en ligne, c'est un réseau qui fonctionne depuis 1999 entre 7 universités françaises, dont chacune organise une journée d'agrégation sur un des auteurs au programme de l'agrégation. Cette journée est enregistrée et diffusée en vidéoconférence. Et donc dans chacun des centres, on peut regarder toutes les journées. Donc dans chaque université, les agrégatifs sont invités 7 vendredis de suite à assister à des vidéoconférences. L'avantage de la vidéoconférence, c'est que l'on peut interagir avec les intervenants. Alors très rapidement, le web est venu s'ajouter à ces possibilités. Au début, on utilisait des dispositifs de vidéoconférence assez lourds, hein, qui passent par des lignes téléphoniques spécialisées, etc. Donc c'était forcément dans des universités bien équipées, avec une salle de vidéoconférence. Et puis la vidéoconférence par l'internet est arrivée assez rapidement, avec une très bonne qualité qui aujourd'hui rivalise avec les moyens spécialisés, ce qui fait qu'on s'oriente petit à petit vers des solutions beaucoup plus légères. Alors oui, on publie donc les textes qui nous ont été donnés par les conférenciers, mais on peut aussi, on va peut-être en voir un exemple, je ne sais pas si la bande passante va être suffisante, mais on peut en cliquant ici voir et écouter les conférences elles-mêmes. Pardon ? Voilà, enfin bon, on verra si la bande passante est suffisante pour ça. Mais ce qui est important, c'est le modèle, c'est-à-dire que l'on peut imaginer de cette manière diffuser nos travaux scientifiques de manière beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple. Ça n'exclut pas là non plus la publication, parce que je disais à certains d'entre vous hier soir, les agrégatifs en particulier peuvent... On dirait du bacon. peuvent, vous le voyez, suivre les conférences, y compris en direct, hein, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Je pense pas qu'on ait du son. Hein. Oui, non, on n'aura pas de cette manière.
À la maison, vous en aurez.
Donc ça intéresse certains d'entre eux, en particulier les agrégatifs éloignés des centres universitaires sont très contents d'avoir ce contact avec des conférenciers.
Ça dure 56 minutes.
Oui, ce sont des exposés d'une heure généralement. Mais la plupart du temps, ils nous demandent aussi le texte. Donc là, le texte, il n'y a pas de publication papier qui est envisagée, parce que vous le savez, ce sont les contraintes de l'agrégation, il faut réagir très vite, puisque l'année d'après, c'est à peu près périmé. Donc les textes sont mis en ligne, mais ils sont aussi utilisés que les enregistrements vidéo. On pourrait imaginer, par exemple, mais là aussi, et ça sera très intéressant le dialogue avec Madame Ergon sur cette question-là, et il est dans notre sujet, il peut être envisagé, par exemple, de diffuser sous forme en ligne les débats, les dialogues, qui sont toujours très difficiles à restituer par écrit, alors que les communications elles-mêmes seraient diffusées sur papier. Vous voyez, toutes les combinaisons sont envisageables. En revanche, il ne faut pas se cacher que l'Internet et son modèle de gratuité ne permettent pas d'assurer le financement des publications. Le modèle sur lequel nous, universitaires, fonctionnons actuellement, c'est-à-dire un travail et des infrastructures payées par l'État et une mise à disposition gratuite des contenus, ne peut pas convenir à tous et pose des limites étroites au développement de nos initiatives qui sont souvent des prototypes plutôt conçu pour attirer l'attention d'organismes disposant de moyens plus importants. L'expérience que nous présentera Henri Béard tout à l'heure l'expérience de la numérisation de la revue Europe est éclairante, puisqu'il est passé d'un site web, du site d'Hubert de Falaise, sur lequel gratuitement il proposait le sommaire des revues Europe. Et puis il est passé ensuite à une autre forme qui est le DVD, en passant par un éditeur, il nous expliquera ça tout à l'heure, en dit long sur les difficultés qui sont les nôtres une fois que l'on veut aller au-delà du prototype gratuit sur Internet et au-delà des forces de nos centres de recherche. Même chose pour les contraintes juridiques. Il y a un grand flou qui existe dans ce domaine. Un exemple là encore sur les pratiques d'Hubert de Falaise, quand nous illustrons nos éditions avec des images qui ont été prises sur le web, nous avons pris l'habitude de renvoyer par un lien sur le site où nous avons pris l'image. C'est-à-dire lorsqu'on clique sur l'image, on est renvoyé sur le site. Dans certains cas, l'image elle-même n'est pas conservée chez nous, mais renvoie au serveur. Ce qui pose toutes sortes de problèmes techniques d'ailleurs, parce que le site parfois disparaît, change ses images, change son adressage, et surtout ne nous met absolument pas à l'abri de poursuites, parce que si vraiment il y avait des poursuites par un ayant droit d'image, le simple fait de le mettre à disposition et de nous abriter derrière un autre site qui lui l'a mise en ligne ne nous protégerait, je suppose, pas du tout de poursuites éventuelles. Donc là aussi, il y a des limites importantes à ces publications en ligne. Au-delà de ces difficultés, dont on peut prédire, difficultés techniques, juridiques, dont on peut prédire qu'elles devraient être résolues dans l'avenir, c'est un obstacle plus fondamental que se heurtent les entreprises d'édition en ligne. Celui de l'inadéquation entre le support d'origine, le papier, et le support numérique et hypertextuel du web. La logique linéaire du codex s'accommode mal d'un espace tridimensionnel où se perdent les logiques, les fils narratologiques, chronologiques, rhétoriques sur lesquels se fondent nos procédés littéraires. L'œuvre virtualisée et transformée en hypertexte subit de plein fouet les effets de la fameuse loi de McLuhan suivant laquelle le message c'est le média. Et pour cette raison-là, les transformations profondes de l'acte de lecture induite par le support hypertextuel annule irrémédiablement ce que nos grands textes littéraires portent pour produire d'autres lectures qui ne sont pas moins intéressantes ni moins légitimes, mais dont il faut bien se dire qu'elles sont différentes. De ce point de vue, l'utilisation de l'Internet comme support des études littéraires va d'abord, me semble-t-il, modifier ces études, mais aussi, ultérieurement, consécutivement, notre vision des œuvres, puis les œuvres elles-mêmes, sur le plan médiologique. L'écart entre un roman de Balzac édité sur papier et mis en ligne est d'une toute autre nature que la différence entre l'édition Furne, par exemple, et l'édition de la Pléiade, différence qui n'est guère plus grande qu'entre un manuscrit médiéval et une édition moderne. Il faudrait plutôt comparer ce transfert avec celui qu'a connu notre civilisation au moment du passage entre la littérature orale et une littérature écrite, avec ce que cette transposition a causé de dénaturation, de malentendus, de contresens, d'affadissement et aussi de réinterprétation. Il faut d'ailleurs se garder d'une vision conservatrice de ce phénomène et se persuader que le rôle des spécialistes de littérature est d'accompagner et de penser ce mouvement historique et culturel de grande ampleur. J'ai déjà eu l'occasion d'écrire qu'à l'occasion de cette réévaluation, certaines des œuvres de notre patrimoine allaient disparaître, peu à peu, de notre horizon et de notre histoire littéraire, et que d'autres seront valorisées et que toutes, de toute façon, seront lues autrement. Je crois qu'il ne faut pas se cacher cette nécessaire évolution, sans se cacher non plus que l'histoire littéraire est pleine de réévaluations de ce genre-là, et que ça ne sera pas une nouveauté. C'est en effet le lecteur qui devient le maître du jeu avec les nouveaux supports, plus actif, plus créatif, plus sélectif. Il doit à présent extraire son information d'une masse considérable de documents extrêmement accessibles et extrêmement lisibles. Il s'y construit des réseaux signifiants d'un nouveau genre, en liaison avec des réseaux humains tout aussi innovants. Il est en effet un domaine où l'Internet se montre indiscutable, c'est dans sa capacité à relier des individus à travers le partage d'un discours. On l'a souvent noté, l'Internet, contrairement aux prédictions de McLuhan, nous replonge dans un univers textuel, particulièrement dense, où l'audiovisuel n'a somme toute qu'une part mesurée. C'est le courrier électronique qui a fait la réputation d'Internet et c'est le web qui a fait son succès. Ces deux modes de communication, avant tout textuels, permettent aux chercheurs de travailler de manière tout à fait innovante, beaucoup plus que ce qu'avait permis en leur temps téléphone, télécopie ou télévision. Si le courriel s'est imposé aussi rapidement chez les chercheurs en lettres, c'est qu'il cadrait immédiatement avec leur pratique et qu'il comblait des besoins évidents. Déjà convertis au traitement de texte depuis le milieu des années 80, les chercheurs, d'ailleurs souvent aiguillonnés par leurs éditeurs, ont immédiatement vu l'intérêt qu'il y avait à transmettre leurs fichiers par courriel plutôt que par disquette. Là aussi, je prendrais l'exemple du travail d'Hubert Falaise pour produire ce livre annuel. Si vous me permettez de revenir un peu sur les pratiques de notre groupe, puisque ça a toujours été un travail de groupe signé collectivement, on constate que jusqu'en 1995 à peu près, le groupe s'est réuni chaque année en séminaire pour travailler à ce livre. Et puis peu à peu, avec l'arrivée du courrier électronique et sa diffusion, nous avons de moins en moins éprouvé ce besoin d'une réunion annuelle pour caler, lancer le travail, et nous avons peu à peu appris à travailler en réseau de manière finalement assez proche, mais sans nous réunir physiquement. Il nous est arrivé peu à peu de travailler avec des collaborateurs que nous ne rencontrions pas du tout. C'est ce qui est arrivé par exemple sur un livre que j'ai coordonné sur Mallarmé, sur lequel j'ai travaillé avec Gérald Purnel, qui est de l'Université de Liège, que je n'ai jamais rencontré physiquement pendant le travail sur ce livre. Et c'est un genre d'expérience que beaucoup d'entre vous connaissent et qui permet de travailler ensemble à distance. Nous avons fêté ensemble d'ailleurs, et en buvant quelque chose qui n'était pas virtuel, la sortie du livre, qui était un livre papier, là non plus, qui n'était pas virtuel, mais le travail s'est fait de cette manière-là. Pour le dernier volume de la collection Kappa Grec, qui est encore sur le chantier à l'heure où je vous parle, une autre expérience de travail collaboratif a été tentée avec la mise en place d'un wiki. Je pense que vous connaissez ce type de réseau. Beaucoup d'entre vous connaissent la Wikipédia, sans doute, hein, qui est une très belle entreprise collective de rédaction d'une encyclopédie sur l'Internet. Un wiki, c'est un ensemble de notices liées par hypertexte et qui peuvent être créées ou modifiées par chacun des utilisateurs. C'est un très bel outil de travail en commun que nous avons expérimenté cette année. C'était assez facile puisque le livre de cette année sur TED-Dor prendra la forme d'un dictionnaire. Donc chacune des notices est en ligne et chacun des collaborateurs peut la modifier, ce qui permet à chacun de suivre la liste des modifications et d'être sûr qu'on ne travaille pas sur un texte qui est en train d'être modifié par un autre collaborateur. Je suis d'ailleurs en train de refaire le site du Centre Hubert Falaise sous forme de wiki. Ce qui permettra, dans des éditions comme celle qu'on vient de voir tout à l'heure, à tous les visiteurs de proposer des modifications. Et là encore, on peut imaginer des travaux collaboratifs de très grande ampleur avec ces outils-là. Dès lors qu'il est envisageable de travailler efficacement ensemble en réseau, la structuration ancienne de la recherche par centre lié à une université ne se justifie plus guère. Et là aussi, je pense que l'arrivée de l'Internet va changer nos modes de travail et nos modes d'organisation. Actuellement, un centre de recherche, je le dis pour nos amis étrangers qui ne savent peut-être pas toujours comment fonctionne la recherche universitaire en France, est forcément lié à une université dans la mesure où les financements sont versés par le ministère à une université. Donc on peut avoir des centres de recherche évidemment qui intègrent des chercheurs de toute la France et même européens du monde entier, mais à ce moment-là le chercheur fait un acte d'adhésion à un centre de recherche qui sera financé par le ministère français lié à une université. C'est un mode de fonctionnement qui devient assez complexe avec les réseaux que nous sommes en train de constituer. C'est le cas d'Hubert Falaise par exemple, puisque dans notre spécialité, c'est-à-dire les études littéraires assistées par ordinateur, il n'y a généralement qu'un ou deux chercheurs par université, quand il y en a un. Donc ce qui serait beaucoup plus intéressant, c'est de fonctionner sur des réseaux qui puissent être financés spécifiquement. Un bon exemple également de ce fonctionnement en réseau, c'est la liste Litor, hein, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est animée par Patrick Rebollard et dont nous aurons l'occasion de parler à nouveau, qui est une forme très souple de structuration. Il y a 500 abonnés à l'heure actuelle, hein, qui lisent l'information, qui parfois en diffusent, et qui permettent de travailler de manière très souple en réseau. Un autre aspect, mais sur lequel je passerai rapidement parce que ça n'est pas le sujet, je crois, de notre colloque, c'est l'enseignement, hein, qui a aussi beaucoup changé nos points de vue. Alors, tout simplement parce que je travaille dans le cadre d'un centre de téléenseignement et j'ai un cours qui est un cours d'initiation aux outils informatiques pour les littéraires. Donc là, il y a une cohérence évidemment à travailler en ligne. Mais ce qui me semble le plus intéressant dans notre problématique, c'est que ça nous permet de voir comment les nouvelles générations d'étudiants abordent ces outils. Ils les abordent évidemment d'une manière qui est différente de la nôtre, puisqu'ils ne les ont pas découverts progressivement. Ils arrivent directement dans un contexte où ils existent. Et leurs réactions sont souvent très intéressantes. Par exemple, il est tout naturel pour eux de trouver de la documentation en ligne. C'est quelque chose qui est... Alors, ils l'utilisent parfois mal, d'ailleurs. Là, il y a tout un travail de pédagogie à faire. Mais c'est très intéressant, justement, de constater leur réaction. Parfois leur naïveté, d'ailleurs, à l'égard des sources Internet, mais de constater leur réaction. C'est en étant attentif à ces besoins de formation et aux réactions de ces nouvelles générations d'utilisateurs que nous pourrons concourir à la mise au point de ce nouveau média qui va se mettre d'abord au service de la lecture des textes littéraires de notre patrimoine et de leur diffusion, puis pour assurer les transitions nécessaires vers de nouvelles perceptions de ce patrimoine. Et il faut que les chercheurs en lettres soient au premier rang. je dirais, hein, de ce travail, de cette réflexion. C'est à nous de penser ces transitions. Il ne faut pas laisser cette charge à des techniciens ou même à des philosophes généralistes qui ont un point de vue qui sera assez différent. En tant que spécialistes de littérature, nous sommes des spécialistes du texte, de sa transmission, de sa diffusion, de sa mise au point. Et c'est à nous, je crois, de penser ces modifications. Et puis à terme, mais ça c'est un sujet qui sera abordé par d'autres, de réfléchir sur l'émergence de nouvelles formes littéraires que l'Internet va sans doute susciter et dont d'autres que vous auront à parler. Voilà, je vais m'en tenir là pour laisser le temps à la discussion, au dialogue. Merci. Bon. Comment procédons-nous ?
Est-ce qu'il y a des questions ?
Attends, juste un commentaire.
Il faudra dire votre nom.
Oui.
Pardon ?
Votre nom ?
Dagmar de Santos, Université fédérale de Santa Catarina au Brésil. Michel, tu avais fait mention à notre besoin de textes numérisés, pas seulement les textes moins d'images, mais aussi moins de textes. À Oust, à l'Université de São Paulo, au Brésil, je crois que c'est là, ils ont mis une bibliothèque d'œuvres rares en moins d'images. Mais il y a des outils de recherche par des mots, des expressions. Je ne connais pas la question technique là qu'ils ont mis dans une œuvre, mais c'est très intéressant. Alors, nous avons accès aux œuvres rares en moins d'images. On peut faire des recherches par des mots d'expression qui nous renvoient aussi aux images où sont les mots, les expressions.
Henri va montrer.
Voilà, ben, tout à l'heure, Henri Béard va montrer l'exemple du DVD d'Europe qui montre une solution que vous connaissez peut-être aussi avec le Grand Larousse du 19e siècle, publié par Redon de la même manière. C'est-à-dire, ça met un pont entre le mode image et le mode texte. Il y a également une très belle réalisation que vous avez peut-être utilisée, c'est la collection du Times. Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'est fabuleux, hein. C'est-à-dire c'est le Times depuis 1785, je crois, donc depuis l'origine, qui est à la fois en mode image et en mode texte. C'est-à-dire qu'on peut faire une requête en mode texte et ce qui est affiché, c'est la reproduction photographique de l'article. Mais c'est un procédé très proche de celui qui nous sera montré tout à l'heure avec la revue Europe. Donc il existe aujourd'hui des solutions qui permettraient de faire un pont entre les modes image et les modes texte. Mais toutes ces solutions-là, qui sont basées sur des reconnaissances à la volée du mode image, ne remplaceront pas un bon établissement du mode texte, des travaux comme celui qu'a fait M. Kiriou par exemple, hein, c'est-à-dire une numérisation vérifiée par un chercheur ou une numérisation faite à la main mais vérifiée comme on peut les obtenir aujourd'hui. Là aussi Henri Béard parlera de ce travail-là, permettront, je pense, d'avoir de bien meilleurs résultats. Mais ce sont déjà des choses qui sont disponibles aujourd'hui. Les logiciels de reconnaissance de caractère sont de plus en plus performants.
Tu donnes la parole.
Isabelle, est-ce qu'on entend son son ? Une question à propos du wiki que vous mettez en place. D'abord, quand je préparais la diversion, je me souviens d'une sourde concurrence entre universités. Donc je me demande un peu comment ça se passe, cette mise en commun de wiki. Et vous invitez utiliser le wiki en l'ouvrant à tout visiteur. C'est en fait vous faites confiance à la responsabilité des négatifs pour chacun mettre à contribution, enfin mettre à disposition des autres des ressources sur Claudel, c'est ça ?
Qui est autorisé ?
Alors là, c'est un wiki qui fonctionnait dans un groupe restreint parce qu'on peut régler les autorisations dans un wiki. Donc là, j'ai inscrit simplement les membres du Bert Falaise qui ont travaillé à ce livre. Voilà. Et comme le résultat doit être imprimé, ce wiki ne sera pas accessible. Hein, donc ça, c'est un exemple. Mais lorsque je parlais, par exemple, de l'édition de Lautréamont qui devrait être transformée en wiki, à ce moment-là, ce sera ouvert largement. Mais le wiki comporte un dispositif qui permet à un administrateur de valider les modifications. Donc l'administrateur est mis au courant de toutes les modifications proposées et on peut revenir en arrière, annuler les modifications. On peut aussi adopter une option qui fait que les modifications sont soumises à validation. Donc c'est ce qui se passe sur la Wikipédia. C'est ouvert à tous. Vous pouvez proposer vos propres modifications, mais il y a un collège d'administrateurs, ça fonctionne de manière très démocratique d'ailleurs, qui est chargé de fonctionner en comité de pilotage et de rédaction et de valider ou d'invalider les modifications qui sont faites. Donc c'est un outil qui est assez bien fait de ce point de vue.
Mais là, Wikipédia vient de demander l'aide d'autres partenaires.
Oui.
Yahoo, je ne sais pas qui, parce qu'ils n'arrivent plus à le faire.
Ça devient très lourd. Oui. Ça devient très lourd. Parce qu'il y a
un modèle économique aussi.
Il y a un aspect sociologique aussi. J'ai parlé très rapidement des aspects économiques, juridiques. Il y a un aspect sociologique qui serait intéressant à étudier. C'est que pour fonctionner dans des groupes virtuels, on est un peu démuni encore à l'heure actuelle. On ne sait pas on s'appuie sur le fonctionnement des groupes habituels. Peut-être qu'Alexandre Geffen nous parlera des colloques virtuels organisés par Fabula. C'est assez intéressant. Ils ont organisé des colloques virtuels sur le modèle des colloques comme celui de cette semaine. Mais ça n'est pas toujours le meilleur modèle. Même chose pour le fonctionnement d'un groupe. On tâtonne beaucoup actuellement pour fonctionner en groupe, en réseau virtuel de ce genre-là. Mais c'est aussi très intéressant parce qu'il faut que nous inventions d'autres modes de fonctionnement. Là aussi, nos jeunes étudiants qui vivent dans un univers de dialogue en direct, de SMS et de téléphone portable ont peut-être des choses à nous apprendre.
Thomas ?
Oui, Thomas, c'est peut-être juste deux commentaires. Et je crois que d'autres vont continuer le débat le long de la semaine. Je vois le nom de Jean-Marie Vitré pour les questions légales. Parce que mon site Ilamil, souvent on me donne l'autorisation d'une photo que je scanne moi-même, qu'on envoie par courrier traditionnel. Et j'ai le droit de mettre cette photo en ligne sur mon site. Et je retrouve ces photos partout sur le web. Personne ne me demande l'autorisation. Et donc vous dites, sur Hubert de Falaise, vous mettez des photos sans demander ailleurs si vous avez le droit. Et vous n'avez pas le droit. L'autre commentaire, c'est sur la
Bayenne.
Sur la Bayenne, c'est aux États-Unis, le Library of Congress, ils mettent toujours les livres en ligne dès qu'on demande le ISBN pour le livre. Et la Bayenne est très en retard. Et pour ça, souvent, je recommande aux gens de WorldCat. Et WorldCat, par exemple, si vous cherchez un livre du 19e siècle haïtien, s'il y a un seul exemplaire de ce livre quelque part sur les catalogues du monde, je trouve que WorldCat est beaucoup plus efficace que le catalogue de BN qui comprend également les références de la BN.
Oui, pour ce qui est des images, pardon, mais voilà le genre de choses que nous faisons, c'est-à-dire quand nous avons une réaction, nous enlevons l'image. Ou...
Non, mais ce n'est pas la façon de procéder. Il faut d'abord demander l'autorisation.
C'est vrai.
Il y a des lois.
Oui, mais c'est très compliqué.
C'est très simple, les lois.
Ça veut dire qu'il faut retrouver sur un site l'auteur du site, ça n'est pas toujours simple. Ça veut dire qu'il faut considérer que si on n'a pas de réponse, c'est une réponse positive, ce qui n'est pas toujours évident. Parfois, le temps de réponse est très long, parce que...
Il y a la notion de droit réservé.
Oui.
Nous utilisons toujours le droit réservé. Oui.
Voilà. Non, puis tu sais bien, il y a le opt-in et opt-out. Donc, si on met une image et qu'on met le lien vers la source peut le savoir et nous demander de l'enlever. À ce moment-là, on le fait.
Ouais, mais utilisez avec la permission de avant de mettre.
Je suis pas certain.
Le fait que quelque chose est en ligne, ça ne vous donne pas au monde entier de le cliquer. Je suis désolé.
Oui, à mon avis, ce que vous dites ressortit plutôt à la netiquette qu'à la législation proprement dite. Oui, mais elle est tellement claire qu'on ne pourrait rien faire du tout aussi. Parce que l'image elle-même que vous mettez sur votre site ou que l'on trouve sur un site, est-ce que les droits ont été, est-ce que la question des droits a été réglée? C'est pas toujours évident.
Je vous dis, si on m'envoie une photo que je scanne, que je numérise moi-même,
oui,
et qui est marquée Oswaldo Salas, René Despès, regardez voir combien de copies vous allez trouver ailleurs sur le web. Moi, j'ai le droit.
Oui.
Mais les autres ne l'ont pas en le prenant de mon site.
n'a pas ce droit, oui. Y compris lorsque le lien lui-même renvoie sur votre site.
Non, il faut vous demander. Oui. C'est exactement comme un copie papier. Si vous republiez une page d'un livre ici, il faut normalement demander les droits. Il y a, la législation était presque pareille que pour les livres publiés.
C'est bien ce qu'on peut reprocher à cette législation, justement, c'est d'être la même. Oui, oui, mais il y aura une la séance animée par Jean-Marie Vipré reviendra sur ces questions-là, oui.
Claude Bourquin, j'ai une question relative aux pratiques du Golfe Falaise quant à l'agrégation. Le fait que vous persistiez à publier un volume chaque année plutôt que de mettre les données en ligne, c'est justifié par quoi ?
Alors, c'est justifié par le fait que nous sommes dans une situation de transition, je crois. Quelques éléments de réponse. Lorsque nous avons lancé cette collection, notre idée était effectivement, au début, de la diffuser sous forme purement électronique, CD-ROM, et puis ensuite de mettre en ligne. Mais, premier point, mais que je soumets simplement à votre réflexion, la reconnaissance académique passe encore par le papier. C'est-à-dire que lorsqu'on ne publie pas sur le papier, on a beaucoup plus de peine à faire valoir ces publications que lorsqu'elles sont simplement en ligne. Ce que l'on constate souvent actuellement, c'est que les chercheurs publient sur le papier et mettent en ligne des versions de ce qu'ils ont publié sur le papier. Mais la version sur papier est encore un élément de légitimation. Le deuxième point est financier. C'est-à-dire que la publication en ligne ne peut pas rapporter autre chose que de la notoriété. Alors, à moins qu'on ait des sites publicitaires, mais je vous avouerai que en tant que chercheur, on ne sait pas très bien faire ce genre de choses. Les accès en site restreint sont très difficiles. Henri Béard parlera aussi de son expérience des retours financiers de telle ou telle entreprise. Alors, les retours financiers, vous imaginez, ne sont pas à but personnellement lucratif dans ce cadre-là. Ça non plus, les chercheurs ne savent pas vraiment faire. Mais ça permettrait de donner des moyens à certaines entreprises. Donc là, en l'occurrence, la publication Capagreg, Hubert Falaise, nous permet régulièrement, je le disais, de nous réunir, de financer un certain nombre de déplacements, de réunions. Et c'est un élément que nous n'avons pas réussi à régler sur le net.
Avec 7% de la version imprimée.
Oui, c'est ça, avec les droits d'auteur. Hein, avec les droits d'auteur qui permettent bon, de réunir des sommes assez faibles, évidemment, mais qui permettent tout de même d'alimenter la vie du groupe. Hein, y a ça aussi qui est intéressant.
Les étudiants qui préparent l'agrégation ne sont pas tous connectés
voilà,
à Internet.
C'est l'autre aspect,
les professeurs qui recommandent les bibliographies ne sont pas tous partisans de l'utilisation des nouvelles technologies. Donc on a encore besoin de publier un livre.
C'est aussi lié à notre projet en tant que centre de recherche, c'est-à-dire cette diffusion auprès de nos collègues littéraires se fait actuellement plus facilement par le papier que par l'Internet.
Je voudrais quand même rappeler que l'objectif n'était pas d'avoir un public sur papier, mais de faire connaître les méthodes d'Hubert de Falaise et qu'il nous semblait que le public désagrégatif allait faire des petits. C'est-à-dire que, vous le savez, le mécanisme est très simple, quand un texte est lié au programme de l'agrégation, on le retrouve dans les programmes de licence de toutes les universités de France, etc. Et c'était l'idée que, en faisant connaître ces méthodes, peut-être que ça allait se répandre dans l'ensemble du pays. L'ennui, c'est qu'on n'a jamais eu de retour. Mais il faut croire que ça marche bien, puisque l'éditeur continue à publier cela. Mais l'objectif, ce n'était pas du tout l'agrégation. Je dirais même que si vous avez regardé le contenu d'un livre d'un Capagreg, c'est le cheval de Troie, c'est l'anti-agreg. Mais voilà.
Ce qui est très libérateur, c'est que vous présumez ne pas atteindre votre public au travers d'Internet et que vous avez besoin du livre pour atteindre une bonne partie du public.
Voilà.
Ben oui.
Mais d'autres expériences que j'ai citées rapidement montrent ça, les journées d'agrégation en ligne par exemple, c'est-à-dire que on nous a demandé des publications papier. à travers l'enseignement aussi, c'est-à-dire que le cours que je fais est entièrement en ligne et je me suis rendu compte rapidement que les étudiants imprimaient eux-mêmes l'ensemble du cours. Alors l'enjeu c'est peut-être de faire des documents en ligne qui ne puissent pas être imprimés, animation, lien, etc. Mais au fond, quel intérêt, oui. Là aussi, je crois qu'on est vraiment dans des phases de transition dont il faut...
Pour 20 ans, 30 ans.
Voilà, il faut... ne serait-ce que parce que les lecteurs, alors techniquement, sont peut-être pas assez bien équipés pour lire sur écran, mais aussi parce que je crois qu'il leur manque un certain nombre de savoir-faire de la lecture sur écran qui rendent pénible. On dit beaucoup qu'on ne peut pas lire un livre sur écran actuellement. Et souvent, ce que l'on cite, c'est le rétroéclairage ou la qualité des écrans. Je pense que ça vient plutôt de l'ergonomie, la difficulté de lire sur écran. C'est-à-dire qu'on sait se repérer dans un livre en feuilletant sa tranche, en le cornant, en le déplaçant. On ne sait pas encore bien se déplacer dans un livre qui est sur un écran. Et puis peut-être que les interfaces non plus ne sont pas encore suffisamment commodes, que nous n'y sommes pas encore suffisamment habitués. Hein. Donc là aussi, il y a des situations intermédiaires.
C'est faire l'hypothèse qu'il y aura substitution, ce qui est une hypothèse sans doute prospectivement fallacieuse, parce qu'on sait que toute technologie n'enlève pas les précédentes, mais permet une recomposition.
Donc, on n'a pas parlé de substitution, d'adaptation.
Oui, non, mais je veux dire, on veut les deux. Ce qui voilà. Intéresse
nous aussi.
C'est de pouvoir utiliser l'ensemble des outils selon les cas. Oui, c'est ça. Et donc, il n'y a pas à imaginer que.
Monsieur le maire.
Oui, je voudrais poursuivre dans le même domaine, et puis effectivement, on est dans des périodes de transition. Mais notre rôle, c'est d'essayer d'accélérer cette transition dans la direction du numérique. Quand, par exemple, on conserve l'idée que la justification académique demande la publication papier, donc nous devons continuer à publier papier, moi, j'ai des collègues qui ont dit que non. Ce que je publie est trop spécialisé, dorénavant c'est publié en ligne, point final. Et maintenant, nous mettons ça dans notre curriculumité comme une publication.
Ça commence.
Et nos directeurs se trouvent devant le faire en ligne. Soit ils ne tiennent pas compte de ces publications, et à ce moment-là, il faut nous mettre dehors. Soit ça compte. Et effectivement, au bout de maintenant, disons que ça fait 5 ans, au bout de 5 ans, les directeurs et les doyens ont fini par admettre une liste. Bien sûr, ils ne peuvent pas lire ces choses-là, mais ils ne lisaient pas les articles avant de comprendre ce qu'on avait. Donc, ça ne fait pas de différence. Ce qui compte, c'est d'avoir des lignes dans le CV. Hein. Alors, ça fait une ligne dans le CV. L'autre justification dont vous parliez pour rester au papier, c'était l'aspect économique à propos de votre collection Capagrès. Là aussi, il me semble qu'il faudrait progresser à ce niveau-là. Et je ne suis pas aussi sûr que vous que le volume papier se justifie toujours. C'est sûr que la publication sur Internet, si on veut que le site reste ouvert en gratuit, pose des problèmes et que le livre papier permet un certain retour économique. Mais il y a entre les deux différentes solutions, en particulier le CD-ROM. On peut très bien avoir donc une édition de ces textes qui est numérisé, et à ce moment-là, ça permet toutes sortes de recherches dans le texte, le livre, on ne permet pas cela. Et le CD-ROM, on le vend. On le vend comme un livre. Dans les années, à la fin des années 90, il y a eu tout un mouvement de vente de CD-ROM culturels, livres. Il n'y en a plus. Hein? Tout à coup, en quelques années, c'est mort. Mais on peut vendre des CD-ROM et faire des CD-ROM comme des livres. Et ce sont à ce moment-là des livres électroniques qui permettent la lecture, d'autre part, qui permettent toutes sortes d'instruments de recherche. L'argument qui dit que certains de nos étudiants demandent encore le papier, bien justement, si on leur fournit le papier, ils vont continuer. Oui. Si on leur dit c'est un CD-ROM, c'est pas la peine de l'imprimer, c'est pas la peine de télécharger ce texte et de l'imprimer, apprenez à le lire dans votre ordinateur. Voilà, on accède à cette évolution.
Voilà. Je ne vais pas répondre à la question de Michel Lemaire, d'abord parce que je crois que c'est bien qu'il n'y ait pas comme ça forcément des questions-réponses, et puis surtout parce que c'est une merveilleuse transition avec ce que va nous présenter Henri Béard, qui justement a voulu régler le problème de cette manière en faisant un DVD-ROM pour sa collection. Donc
on va peut-être faire une pause de 10 minutes.